Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC va débriefer le Grand Prix du Canada Tabernacle. Le Canada, une course qu'on apprécie, une course où il s'est passé plein de choses avec le premier crash entre les McLaren de la saison. Elles se sont enfargées les pieds dans le tapis, comme on dit à Montréal, les McLaren. On va revenir sur ce qui s'est passé entre Norris et Piastri. Je suis très très nul en accent québécois. Je m'excuse auprès de la communauté québécoise parce qu'en plus on nous écoute au Québec. Je vois là des fois les écoutes. Et en Amérique du Nord, on écoute le paddock RMC. Donc on s'excuse, bien évidemment, pour cet accent lamentable. On va parler de Mercedes et de la première victoire de George Russell cette saison, du premier podium d'Antonelli également. Ça va mal, toujours mal pour Ferrari. Et Esteban Ocon a réussi à placer sa as dans les points. Voilà pour les gros enseignements de ce Grand Prix du Canada. Notre team principal est là. Et je ne sais pas s'il maîtrise l'accent québécois, mon Jean-Luc Roy.
Bah, je fais des efforts, hein, mon Nico. Hein. Salut la belle province. Voilà ce que je peux faire de mieux. Mais j'ai compté
c'est
les arrêts
mal.
Au puits. Voilà.
Bah, oh. Ah, les arrêts au puits. Bah, voilà, on y est. Tes ingénieurs. Alors, à mon avis, j'ai hâte d'entendre le Québécois d'Alex Caldier et de Louis Gerbet.
Oula.
Salut, les gars. Ah, bon, on y va pas.
C'est tabernacle,
ouais,
man.
ouais, voilà. J'allais dire, après, on n'était pas obligé d'y aller, les gars, si vous ne sentez pas.
Ouais, non, bah, non. À part le calice, j'en ai pas. Hein.
Ouais, c'est dur. Très bel accent quand même, soyez en passant. Ça mériterait un petit podcast, ça, les plus beaux accents du monde. Bref. Je vous rappelle que le podcast est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, que c'est super important de nous mettre une petite note et que vous foncez sur la page Instagram RMC Formule 1 pour voir les dernières actualités. Tiens, on vous a proposé du contenu sur les 24 heures du Mans ce week-end. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez voir tous les extraits du paddock RMC, page Instagram RMC Formule 1. La traditionnelle note, les amis, de ce Grand Prix du Canada, je commence par toi, Jean-Luc. Il s'est passé plein de trucs, hein, quand même.
Ah oui. Là, écoute, j'avais été très dur il y a deux Grands Prix. Là, je mets un bon 3,5, voire un bon 3,75. Allez.
Ah, un 3,75 pour Jean-Luc. Ah bah, oui, Alex.
Vas-y, Alex.
Ah, moi, un bon 4. Hein. On s'est régalé quand même. Hein. Une belle course de Formule 1 qui s'est passé beaucoup de choses. Entre McLaren, Ferrari qui se plante, le podium d'Antonelli aussi. Petite émotion. Donc,
ouais, 3,5 pour moi. Je suis peut-être un peu moins enthousiaste que mes compères, mais quand même très. Ouais, Grand Prix assez sympa à regarder.
Eh ben c'est parti les gars, on débrief ce Grand Prix du Canada. Les 25 points de la victoire pour George Russell au volant de sa Mercedes qui devance Max Verstappen. Podium, premier podium en carrière pour Andrea Kimi Antonelli. Mercedes qui fait la grosse opération du week-end en plaçant deux voitures sur le podium. Quatrième place pour Oscar Piastri qui a été touché par son coéquipier Lando Norris qui a dû abandonner. Il y a eu un accident en toute fin de course. Bien évidemment, on va revenir sur ce crash entre les deux McLaren. Charles Leclerc termine 5e, ça a été encore une fois difficile pour les Ferrari en qualification. Lewis Hamilton, 6e, Lewis Hamilton, il s'est pris une marmotte, le pauvre. Terrible. En plus, Lewis, il adore les animaux, c'est ce qu'il a dit.
Et surtout pour la marmotte. Hein,
Ouais, bah, bien sûr, il était bouleversé, le pauvre Lewis. Fernando Alonso, 7e, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une Aston Martin à ce niveau-là. Nico Hülkenberg qui arrive une nouvelle fois à placer sa Sauber dans les points, la 8e position. La As d'Esteban Ocon qui rapporte 2 points avec cette 9e place. Et puis, c'est Carlos Sainz, 10e, qui complète ce top 10. Les autres infos, Franco Colapinto est 13e, Yuki Tsunoda, hein, c'est dur hein, pour Tsunoda qui est une petite place devant Colapinto à la 2e position. Gasly a eu beaucoup de mal, 15e, Hadjar 16e aussi, ça a été très compliqué pour Isaac Hadjar qui s'était pourtant qualifié en Q3 mais qui n'avait pas de rythme. Et sinon, Lando Norris, Liam Lawson et Alexander Albon n'ont pas terminé cette course au championnat du monde. Oscar Piastri creuse l'écart suite à cet accident de Lando Norris, 22 points d'avance pour Piastri sur son coéquipier. Max Verstappen est troisième avec 155 points. Il y a donc 33 points d'écart entre Verstappen et Piastri. Russell fait la belle opération hein, puisqu'avec 136 points, il se rapproche de Verstappen à 19 unités du pilote Red Bull. Leclerc 5e, Hamilton 6e, Esteban Ocon est repassé devant Isaac Hadjar au classement des pilotes à la 9e position avec 22 points pour Ocon au classement des constructeurs. Pour une fois, ce n'est pas McLaren le grand gagnant du week-end. 374 points, ils sont quand même relativement tranquille vu qu'ils ont 175 points d'avance sur leur dauphin Mercedes.
Bravo.
Qui repasse devant Ferrari.
Bravo ouais, pour bah, le championnat.
Ah ouais, ils peuvent planter les deux bagnoles pendant quelques courses, ils sont encore tranquilles. Hein. McLaren, Ferrari est 3e avec 183 points, Red Bull 4e, Haas est repassé, ou égalité de points pardon, avec Racing Bull avec 28 points. Voilà pour le classement. Jean-Luc, on va commencer par cet accrochage, ce crash et cette erreur de Lando Norris qui a tout fait pour dépasser Oscar Piastri dans les tout derniers tours du Grand Prix et qui s'est planté, qui s'est mis dans le mur. Voilà, c'est quand même le gros fait d'armes de cette course. Hein.
Bien sûr, c'est un bon. On l'avait annoncé depuis pas mal de grands prix. On savait que tôt ou tard, ça allait se produire, qu'ils allaient se retrouver face à face avec une performance de monoplace qui était un petit peu différente, puisqu'on avait bien compris que Lando, depuis plusieurs tours d'ailleurs, battait et rebattait le record du tour et se rapprochait de son équipier qui lui butait un petit peu et de plus en plus sur Antonelli. Bref, l'explication, elle a eu lieu dans les derniers tours. Alors, la manœuvre initiale à la dernière épingle était intéressante hein, de la part de Norris. Il était passé, seulement Piastri, on l'a dit et redit, c'est vraiment un coriace. Il s'est remis à sa hauteur. Juste au moment du début du freinage, il est même devant Norris, mais il est à l'extérieur. Et Piastri, évidemment, ne laisse rien. Et puis après, bon, bah, c'est l'erreur d'évaluation. Alors, moi, je n'ai pas envie de lui mettre vraiment la tête sous l'eau du fleuve Saint-Laurent. Évidemment, elle est trop facile à faire, celle-là. Ou du bassin olympique, parce que d'abord, il commence à me faire, alors je sais pas si c'est une bonne remarque pour lui, un peu pitié, Lando, parce qu'il est d'une honnêteté remarquable. En ça, il me fait vraiment penser à Charles Leclerc. Quand ils ont à se reprocher quelque chose, ils le disent, en général, tout de suite. C'est pas, ah ben il a bougé, je l'avais pas vu. Non, non, tout de suite, c'est de ma faute, j'ai été nul, je suis désolé. Il faisait un Grand Prix magnifique hein, avec les moyens dont il disposait et partant d'où il était parti. Ok, bah c'est l'erreur, c'est la bavure, il paie le prix fort. Là, il prend 10 points dans la tête, les 10 points qu'il aurait dû prendre, et peut-être, ce sera un des tournants ou le tournant du championnat, on le saura plus tard. Donc, j'ai envie de le défendre, parce qu'un pilote, ça doit être agressif. Maintenant, là, ça passait pas, c'est une évidence absolue. Surtout qu'il n'y a pas eu de mauvaise manœuvre hein, de la part du Piastri. Sa trajectoire était linéaire, il serrait sur la gauche, mais on le voyait depuis la sortie du mur des champions juste avant. Donc, bah, Norris a fait une énorme bêtise et il paye l'addition. Voilà, c'est dommage quand même pour lui. Bon, maintenant, je pense que McLaren, il va falloir que ça commence à discuter un petit peu sur peut-être désamorcer un peu le pétard.
Ouais. Ouais, totalement. Tiens, bon, on va l'écouter, Lando Norris, avant de vous faire réagir, les gars, Louis et Alex, sur cette honnêteté qui, franchement, je vais vous poser la question quand même. Au bout d'un moment, est-ce que c'est pas un peu trop? Lando Norris, au micro du diffuseur Canal+, après la course.
I mean, at the time, I thought it was my fault. So,
bah, sur le moment, j'ai considéré que c'était de ma faute cet accident. Peut-être que si je revois l'action, j'aurais une opinion différente, mais voilà, je prends les responsabilités pour moi. Vous présentez vos excuses à Oscar? Oui, c'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il a bien défendu Oscar Piastri? Oui. Et juste avant, Laurent Dupin, le journaliste, qui demande à Lando Norris si la manœuvre était viable. Et Norris dit, ça faisait 5 tours que j'essayais de dépasser. Donc, c'est pour ça que j'ai tenté ce coup-là à ce moment-là.
Après, voilà. C'est un bel hommage à Lewis Hamilton et Jenson Button de 2011, si je ne me trompe pas. Donc, bon... Même accident d'ailleurs.
Alex, qu'est-ce qu'on en pense? C'est vrai, qu'est-ce qu'on en pense de cette honnêteté de Norris qui est toujours désarmante? Parce que moi je trouve ça super, mais c'est vrai que dans ce milieu-là, à chaque fois tu dis, ouais, est-ce que le mec il est pas un peu trop tendre? Et est-ce que c'était pas un peu insensé de tenter ça à toute fin de la course?
Alors, moi, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Déjà, sur l'aspect de l'honnêteté, on ne va pas reprocher à quelqu'un d'être honnête. On ne va pas reprocher à quelqu'un de ne pas être dans la mauvaise foi absolue. Moi, j'ai lu tellement de choses, notamment sur les réseaux sociaux, en mode « Oh, Norris, il n'aurait jamais dû dire tout de suite qu'il a fait une erreur. Il aurait dû être un peu plus comme Max Verstappen, comme certains peuvent dire, être un peu plus dans la mauvaise foi et montrer un peu plus d'autorité pour justement montrer un petit peu plus aux autres qu'il y a un petit peu cette... qu'on peut pas se laisser faire. Bon, Lando Norris, il a été honnête et c'est surtout plus à mettre en valeur qu'autre chose. Les erreurs dans le sport auto, ça arrive constamment. Et surtout, la problématique, c'est que là, pour Lando Norris, ça arrive dans une bataille pour le championnat du monde où c'est une action qui peut être... ne serait-ce que déjà, alors c'est vrai que nous sommes au 10e Grand Prix de 725 de Formule 1, ça peut clairement déjà être l'un des tournants du championnat du monde, parce que cet accident permet à Oscar Piastri d'avoir désormais quasiment une victoire d'avance en termes de points. Il y a quasiment 25 points d'avance, il y en a 22 si je ne me trompe pas au total, donc ça fait déjà un bon écart.
C'est ça.
Après, maintenant sur la question de... C'était quoi la deuxième, excuse-moi, c'était par rapport...
Moi, je sais même plus. Non, je te disais, oui.
Est-ce que c'est honnête de dire ça? Est-ce qu'il faut le dire finalement?
Oui, il faut le dire. Il faut le dire quand on fait des erreurs. Charles Leclerc, tu en parlais, Jean-Luc. Charles Leclerc est constamment honnête. Il se met beaucoup de pression parce que, à son sens, c'est comme ça qu'on peut devenir un champion du monde. Lando Norris a le talent pour devenir champion du monde. Et c'est pas parce qu'il va avoir une certaine mauvaise foi, créer de la provocation, on va dire ça ainsi, par rapport à ne serait-ce qu'à son coéquipier qui est Oscar Piastri, mais également derrière par rapport à ses autres adversaires comme Max Verstappen, ça va pas le faire de lui un mauvais pilote parce qu'il est honnête. Et je trouve que c'est plus à mettre en valeur cette tout de suite prise de conscience que c'est lui qui a fait une erreur. Et aussi vis-à-vis de McLaren, il y a plus de 1000 employés qui travaillent chez McLaren. Vous croyez que les 1000 employés, ils auraient envie d'avoir un gars qui arrive avec une mauvaise foi en mode « Ah, il a fait ça, il a fait ça !»
Alors là, il le dit, tu vois, là, il le dit en zone d'interview, ce qu'on appelle, nous, les journalistes, la zone mixte, mais à la radio.
Mais à la radio, directement.
Direct, il le dit. Direct, il le dit. Son ingénieur lui dit « Ça va, mec ?» Et tout de suite, il dit « Oui, ça va. Pardon, les gars, c'est de ma faute. C'est moi qui me suis jeté. »
Tout ça pour dire que c'est réellement très important pour une écurie d'avoir des pilotes qui, certes, se battent. Oui, ça pouvait avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs. Et surtout, le contexte aussi, parce que souvenez-vous que juste avant le début de ce Grand Prix, Lando Norris a dit c'est inévitable que Oscar Piastri et Lando Norris aillent s'accrocher. Le timing est parfait. Et c'était sûr, on le sentait que ça allait arriver. Mais pour une écurie, avoir deux pilotes qui sont honnêtes, comme Oscar Piastri et Lando Norris, quand ils font des erreurs, c'est très important parce que ça permet un petit peu plus de garder le calme, même quand il y a des situations de crise comme aujourd'hui il y a pu y avoir du côté de chez McLaren.
Alors Louis, sur la tentative de dépassement, est-ce que c'est pas... Alors oui, il était plus rapide. Est-ce que c'est pas un peu insensé et de tenter ça à si peu de tours de l'arrivée? Enfin, comment tu perçois cette manœuvre, toi?
C'est pas la première fois que Lando il fait quelque chose comme ça. On se souvient aussi avec une bataille avec Verstappen. Moi, ce qui m'agace en fait, c'est qu'il a au moins sur 6 ou 7 tours avant, il a la possibilité de le dépasser. Il a un rythme plus rapide, donc il faut le faire à ce moment-là. Et du coup, c'est de la frustration ou un aveu d'échec qui l'amène à faire n'importe quoi à la fin. Et en fait, c'est la signification de ce... Enfin, moi, je trouve que c'est lourd de sens, quoi, tu vois, genre... Parce qu'il avait vraiment tout pour le doubler sur la piste et y arriver. Et à la fin, comme il n'y arrive pas, et à un moment, il se fait un peu... il aimerait y aller, puis finalement, il n'y va pas parce que Piastri défend, tout simplement. Et tu te dis, ouais, mais en fait, si Max avait été là, Max, il aurait sauté Piastri en 2-3 tours maximum. Et à la fin, lui, dans la frustration, il vient faire un truc qu'il ne doit jamais faire, quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'il se réveille à l'instant même où son pneu touche le mur ou son aileron touche les pneus de Piastri en se disant, ah putain, je suis vraiment trop bête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans sa radio... Il le sort tout de suite, c'est parce qu'en fait, il est lucide sur le fait que... Moi, je pense qu'il a un peu, que, comme disent les Anglais, était overwhelmed, tu vois, il était en surchauffe, par frustration, en se disant, attends, ça fait 6 tours que j'y arrive pas. Et à la fin, tu arrives à faire une bêtise. Mais moi, j'insiste sur le fait que ça aurait jamais dû se produire. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû le doubler 3-4 tours avant, au bout de la deuxième manœuvre. Il y a un moment, c'est bon, l'autre, il n'avait pas le DRS. Il attend qu'il récupère le DRS. Enfin, il n'attend pas, mais finalement, Piastri récupère le DRS. Donc là, tout devient plus compliqué. Et c'est là qu'il commence à prendre des risques. Mais prends-les avant quand tu es dans le DRS. Donc moi, je trouve que c'est toute la séquence, en fait, de tentative de doublage de Piastri qui est mauvaise dès le départ, en fait. Parce que comme vous l'avez tous dit, le rythme, il est supérieur, celui de Norris. Donc, tu dois à un moment de réussir quand même à faire un dépassement en piste sans demander aux ingénieurs de te le donner, quoi. Donc, voilà.
Tu sais ce qui est terrible, ce qui est terrible, c'est que dès jeudi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a le Media Day traditionnel, mon Jean-Luc, et on lui pose la question, on lui dit bon, un crash avec Piastri et tout ça, et Norris qui répond là aussi, mais franc, mais lucide, le gars. Il dit la question, ce n'est pas de savoir si ça va arriver, oui, mais quand ça va arriver.
Absolument. Alors, moi, je voulais rajouter deux choses. La première, si vous vous rappelez, en début de saison, lorsqu'il a eu son premier coup de grisou mental, il a dit, de toute façon, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Si je dois être champion du monde, ce sera à ma manière. Vous vous rappelez de ça?
Oui.
Et c'est marquant. En disant, justement, je ne mentirai jamais, je serai carré. Et encore une fois, je le rapproche vraiment de Charles Leclerc, qui a cette démarche, et c'est pour ça que j'apprécie grandement ce type de pilote, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez tous les deux, c'est tellement commun aujourd'hui de dire « Ah, c'est pas de ma faute, c'est lui !» Même dans les cas les plus énormes. Hein. Donc,
ne serait-ce que là, Verstappen et Russell, avec le coup de la safety car, les deux se sont accusés alors que c'est rien passé. Oh,
c'était ridicule. Ouais.
Non, mais là, on va en parler, hein. Tout à l'heure. Oui, bah là, c'est du manichéisme. Là, c'est pas pareil. On utilise le règlement. Ça n'a rien à voir avec quand Vettel, effectivement, avait tapé Hamilton. Vous vous rappelez, ce régime de safety car, et à 20 km heure, hein, en Azerbaïdjan. Bon, là, c'était vraiment, je me jette sur lui, je lui mets un coup de roue. Là, c'est bon. Enfin, c'est autre chose. Donc pour en revenir à Norris, je vous dis, il me touche là honnêtement parce que je ne sais pas s'il va y arriver. J'ai tendance à penser que non, de moins en moins, parce qu'à l'inverse, le Piastri, lui, c'est de l'airain. Hein, je peux vous dire là, il ne bouge pas, il ne dévie pas, rien ne le touche. Il est en béton et là, il a pris ce qu'il y avait à prendre et il est solide comme jamais. Et je pense qu'effectivement, Lando, c'est pas en termes de talent hein, la preuve, mais je pense que mentalement, il est beaucoup plus faible.
Et c'est vrai que là, sur ce coup-là, qu'un pilote qui a besoin d'avoir du mental pour pouvoir réussir, ce qui s'est passé là aujourd'hui au Canada et cette erreur-là peut vraiment lui mettre un coup de massue avant sur les prochains Grands Prix. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'il peut prendre un coup sur la carafe. Ça pourrait être une expression québécoise, ça aussi. oui. On écoute Oscar Piastri au micro de Canal qui termine donc quatrième, bien sûr, ce crash avec son coéquipier.
No, I mean I felt a small touch.
Ouais,
but
j'ai senti un léger contact.
I didn't feel anything more than that.
Mais rien de plus.
Yeah, I mean it was a tough.
Ça a été une bataille vraiment rude pendant plusieurs virages avec Lando.
The incident itself was unfortunate.
L'incident lui-même est malheureux.
Points-wise,
au niveau des points, c'est une super opération pour moi. Mais nous devons faire des week-ends plus solides. C'est fou parce que tu as quand même la chaleur de Norris, ce côté très humain où il te fait ressentir des trucs. Et à côté de ça, tes coups de Piastri après. Boum, l'Antarctique.
Une machine de guerre. C'est une machine de guerre, Piastri.
Du coup, je vous pose la question. Jean-Luc, t'as un peu donné ton avis, toi, mais Alex et Louis, est-ce que là, ça y est, on peut dire qu'après ce Grand Prix du Canada, 10e manche de la saison, c'est mort pour Norris. Avec tout ce qui s'est passé.
Il y a 22 points d'écart.
Oui, mais c'est par rapport à tout ce qui s'est passé dans la saison que je te dis ça. En fait, on dit ça. Il reste des courses. Bien sûr qu'il reste un nombre de courses et qu'il peut le faire. Malgré tout, la dynamique. Depuis le début de saison, à chaque fois on dit « Non mais il va revenir, non mais là il roule plus vite, là il a un meilleur rythme. » Sauf que quand il a un meilleur rythme, il ne prend pas les points. Quand il a un meilleur rythme, là il fait zéro même parce qu'il se jette. Au bout d'un moment, tu peux te dire que ça ne va jamais le faire.
L'exception récente, c'est Monaco. Hein. Monaco, super pôle, super grand prix.
Pour répondre à ça, tu as dit un mot, c'est le mot « dynamique ». Le sport des hauts niveaux, c'est la dynamique. Être dans une bonne ou une mauvaise dynamique. Alors quand on est dans une bonne dynamique, tout va parfait. Tout va parfaitement. Je prends l'exemple dans le football. Un buteur qui ne marque plus pendant une vingtaine de matchs, il remarque derrière, il va enchaîner les buts sur une quinzaine de matchs parce qu'il voit le but d'une manière plus grande, d'une certaine manière. Ben, Lando Norris, c'est pareil. C'est un pilote qui a besoin d'avoir un bon mental et dans des bonnes conditions pour pouvoir performer. Et tu parles notamment sur l'aspect de il a fait une erreur, il a marqué 0 points. Lando Norris, c'est la régularité incarnée aujourd'hui en Formule 1 avec McLaren. Il a que 2 abandons depuis le début de la saison 24 de Formule 1. Les deux, c'était l'Autriche 2024, donc avec l'accrochage avec Max Verstappen, où c'est pas réellement de sa faute, et il se battait d'ailleurs contre Max Verstappen, qui est très dur défensivement, ça s'en est sûr et certain. Et le Canada 2025. Donc il y a eu que 2-0 pointés et d'abandon plutôt par rapport à depuis début 2024 sur Lando Norris, ce qui est très très peu tout de même. À noter aussi que forcément, de l'autre côté, on a un Oscar Piastri qui est solide, mais qui est d'une solidité incarnée, au moins je disais même, j'ai l'impression qu'il est surtout imbattable vis-à-vis de Lando Norris. Mais finalement, Lando Norris, quand on regarde le Grand Prix Monaco, quand on regarde notamment une pole position fantastique et sur le début de la saison d'ailleurs en Australie où il a été solide sur ses appuis dans la globalité et même dans les situations difficiles, il y a des signes qui montrent que Lando Norris peut changer ou du moins peut retourner la situation. Mais c'est là, dans ces moments-là, ou dans les moments, j'ai envie de dire, importants, opportuns et surtout dans les moments où il faut être chirurgical, qu'il doit absolument s'élever. Et surtout, un point, on est sur une saison à 24 Grands Prix. Tu m'aurais dit ça comme si on fait le même podcast en 2004-2005 avec des saisons à 16 Grands Prix. Là, ok, il n'y a pas de souci. Je dirais, non, mais là, c'est terminé. On a un Oscar Piastri qui filerait faire le titre. Là, Lando Norris, il lui reste quand même 14 Grands Prix pour inverser la tendance. Et avec la force de McLaren et la force qu'il a, parce que le talent qu'il a, il lui permettra de devenir champion du monde à sa manière, comme il a pu le dire. Moi, clairement, moi, j'y crois assez fermement. Ça peut clairement retourner la situation pour Lando Norris.
Louis ?
Bah, je pense que Lando peut. Enfin, c'est pas tout à fait fini parce que ça peut aussi. Comment dire ? Il peut arriver dans un nouveau. Dans un nouvel état d'esprit, c'est-à-dire celui où il est suffisamment loin pour se dire bon, j'ai plus grand chose à perdre et du coup se lâcher. Tu vois ce que je veux dire ? Contrairement au début de saison.
Ouais, exactement. Dos au mur.
Parce que ce début de saison, il était très compliqué mentalement pour lui face à Piastri on l'a jamais dit que c'était le second pilote ou quoi, mais au moins au niveau du passé à McLaren. Et donc je pense que Norris avait du mal à voir que l'autre, il commençait à être plus qu'un concurrent sérieux, il commençait même à être devant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à digérer un peu dans sa tête. Et que peut-être que le fait d'être un petit peu loin va le permettre de le libérer, on ne sait jamais, tu vois. Mais c'est vrai que là, Piastri a mis une belle option. Enfin non, Piastri n'a rien mis, hein. C'est Lando qui se l'est mise tout seul, parce qu'hier, il pouvait rester derrière et il avait 2 points de moins et on n'avait pas toutes ces discussions aujourd'hui. Donc voilà, et c'est vrai qu'en même temps, à l'inverse, tu vois pas du tout Piastri faire une folie comme ça d'un coup, quoi. Donc,
mais c'est ça le truc, en fait. Et ouais. C'est ça le truc, parce que Jean-Luc l'a dit aussi, McLaren peut être aussi en droit maintenant, après ce premier accrochage, de dire, bon, bah, les gars, on sonne la fin de la récré, 10 courses, Piastri est en tête, il a fait aucune erreur, il est imbougeable, voilà, c'est Oscar qui a la priorité, ça, Jean-Luc, ça peut se passer aussi.
Ouais, mais là, tu perds Lando Norris, tu perds même Lando Norris vis-à-vis même de contrat, hein. il ira autre part. Hein.
Oui, j'allais dire abandon. On parlait d'abandon et fiabilité de Norris, c'est tout à fait exact. Mais celle de Piastri, dernier abandon, le Brésil 2023, quand même. Et puis il était sur 8 podiums de rang, hein. Donc il est rapide et régulier. Et puis j'en reviens, et c'est encore une fois, malheureusement, en compétition, on peut dire ça comme ça, c'est une qualité, il est méchant. Enfin, il est teigneux. Voilà, méchant, c'est un jugement de valeur, ça n'est pas le cas. Il est teigneux, il ne lâche rien. Voilà. Alors que, bon, encore une fois, on va pas. Moi, je veux pas mettre la tête de Lando sous l'eau, et puis comme vous l'avez évoqué. Et puis attendez, il y a une chose dont on ne parle pas. Heureusement, pratiquement plus jamais. C'est des problèmes techniques. Il y en a qui en ont eu. Hein. Lawson, Albon, bon, ils étaient dans des courses un petit peu compliquées dès le début. Mais les abandons, on n'en parle presque plus des abandons pour cause mécanique. Mais il peut y en avoir. Donc, effectivement, une victoire de Lando, parce qu'il a toujours une excellente monoplace et qu'il est bourré de talent, et puis un abandon sec de Piastri, et boum, ça y est, on inverse l'ordre des valeurs dans le championnat. Hein.
Non, mais je partage votre avis. J'ai l'impression
Schumacher,
que voilà, même...
Schumacher Alonso 2006. Hein.
Ouais.
Chaperon,
ouais.
Abandon.
Ouais, y a des paquets.
Ouais, oui, bien sûr. Ouais.
Bon, parlons du week-end de Mercedes. Les amis, George Russell qui décroche sa 4e victoire en Formule 1 après le Brésil en 2022, l'Autriche et Las Vegas l'année dernière. Donc, le Canada, George Russell qui a signé la pole position samedi, qui fait un super week-end. On sentait dès le début, Alex, que Mercedes avait de la performance. Antonelli aussi. Il ne fallait pas se rater. Et voilà, Russell, quand il est... En fait, Russell, depuis la saison dernière, quand il est en position d'aller chercher quelque chose, il se trouve rarement quand même. Hein.
Bah, il se trouve rarement, George Russell. C'est vrai que il y a une force tranquille depuis le départ de Lewis Hamilton pour George Russell. C'est assez, c'est assez fabuleux, même, j'ai envie de dire, parce qu'il a pris un leadership du côté de chez Mercedes qui lui a été donné, mais peut-être qu'il ne méritait pas dans un premier temps par rapport au fait qu'on avait quand même sur Lewis Hamilton de ce côté-là à être de la stature de Lewis Hamilton dès qu'il quitte l'écurie. C'était pas simple, et pourtant il a pris les rênes, surtout ne serait-ce que vis-à-vis d'Andrea Kimi Antonelli. On sent qu'il le supporte en fait, Andrea Kimi Antonelli, qu'il l'aide dans les bons et les mauvais moments, qu'il parfois peut-être peut le remettre en place. Et il y a une stature qui fait que oui, c'est le nouveau leader, devenu naturel d'ailleurs de Mercedes, et remporter un Grand Prix dans cette 75 de Formule 1 quand il y a Max Verstappen avec Red Bull et il y a surtout les deux McLaren qui ont des avions de chasse et qui se trouent parfois, c'est vrai, mais dans la globalité, Mercedes a aussi trouvé des solutions vis-à-vis de sa voiture qu'est la W15 ou 16. Cette voiture elle a eu du mal en termes de rythme sur le début de la saison, mais elle a toujours été dans la régularité. On rappelle aussi finalement que Mercedes a eu des problèmes de fiabilité sur les 3-4 derniers Grands Prix. Donc avoir réussi à faire un tournant du côté du Canada avec un double podium quand même, avec un podium pour Andrea Kimi Antonelli, c'est un moment très important et peut-être charnière dans la nouvelle histoire de Mercedes sans Lewis Hamilton, et plus particulièrement pour George Russell qui est le nouveau leader de Mercedes et qui guide surtout parfaitement Mercedes dans cette 125 de Formule 1.
On l'écoute, George Russell au micro de Canal.
I felt really confident. I was quick when I needed to be.
Confiance, j'étais rapide quand je devais l'être. C'était plus compliqué à gérer avec Leclerc et Norris qui étaient sur des stratégies décalées. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé derrière eux et je me suis demandé, est-ce que je pousse pour ne pas passer Leclerc, même s'il n'est pas vraiment dans la même course que moi, est-ce que j'endommage mes pneus. Mais bon, dès qu'il a été au stand, j'ai pu augmenter l'avance avec Max Verstappen. Ça a rattrapé ma course de l'année dernière où pour moi j'ai perdu une vraie victoire aussi au Canada. C'est vrai, Jean-Luc, qu'il y avait quand même ce côté revanchard de l'année dernière pour Russell. Hein. On sentait qu'il y avait ça aussi dans un coin de la tête.
Oui, et puis je regardais les stats. Hein. Alors, c'est un pilote très, très brillant évidemment, mais pas tant que ça, parce qu'il en est à pratiquement 140 départs en Grand Prix, 138 je crois pour être précis. Il n'a que 6 pôles et 4 victoires. Vous me direz encore une fois, il y a beaucoup de pilotes de Formule 1, y compris sur la grille, là, qui signeraient pour ça. Mais surtout quand on est chez Mercedes. Mais comme décrit effectivement, comme vous l'avez dit, comme Alex l'a dit, comme Louis l'a rappelé, et quand on est écrasé par un septuple champion du monde et ses 105 victoires, ben effectivement, et puis je rappelle quand même les débuts chez Mercedes de Russell, qui était à l'époque en formation, on va dire, chez Williams, quand il avait remplacé, pour cause de Covid, vous vous en souvenez très bien, quand il avait remplacé Hamilton, oh, quelle erreur de stratégie à l'époque de Mercedes. Moi, ça m'avait fait mourir de rire.
Moi, le premier, pour être honnête. Hein.
Pardon, tu dis que...
Moi, le premier, pour être honnête, hein, bon, sur Russell. Bah,
d'accord, mais c'était énorme. On n'a pas voulu que le gamin gagne pour son premier Grand Prix chez Mercedes parce que c'était faire insulte à Hamilton. Et voilà, moi, j'y vais carrément aussi. On peut ne pas être d'accord, ça ne me gêne pas. Moi, c'est mon opinion et ça la restera. Donc, c'est d'ailleurs énorme qu'une équipe de ce calibre-là fasse ce qu'il faut pour planter son jeune pilote. Donc, si vous voulez, on a quand même mentalement, et ça, je pense que Russell, ça l'a, c'est plus le cas, mais ça l'a poursuivi longtemps, hein, où on lui a dit, bon, mon petit gars, t'es gentil, mais tu vas attendre ton tour. Pour le moment, le patron, le boss, le taulier, il s'appelle Hamilton, et tant qu'il sera là, donc, ce que vous venez de rappeler, mais c'est tout à fait vrai, il est soulagé, il va pas critiquer Hamilton, la question n'est pas là. Mais encore une fois, le meilleur de tes adversaires, ou le plus terrible, c'est ton équipier, on vient de le rappeler chez McLaren. Donc il a le même matériel, il dispose normalement des mêmes atouts que toi, et là, il est libéré et il prend toute sa place. Est-ce que pour vous, c'est pas étonnant qu'au 10e Grand Prix de la saison, on n'ait pas reconduit le contrat quand même de Russell? Il n'a pas de contrat à la fin de la saison, c'est énorme ça.
Peut-être qu'une écurie verte est surtout rentrée dans la danse aujourd'hui.
Peut-être bien. Non mais... pareil, à force de jouer Toto Wolff, je sais pas quel jeu il joue là, mais qu'est-ce qu'on attend pour le reconduire? Il a le calibre lui aussi. Quand on lui donne la voiture, c'est ce qu'il a été obligé de dire, Wolff aussi. Encore une fois, je l'aime bien, c'est un type intelligent, mais combinard et manichéen, comme tous les patrons de F1 évidemment. Donc là, on joue un double jeu. Et puis peut-être qu'il a pas abandonné l'idée aussi, si Verstappen à un moment en a marre de Red Bull, de l'attirer, parce qu'on sait qu'il a tout fait pour ça également. Donc ouais, c'est pas terrible par rapport à Russell. Hein. Moi, c'est pareil, c'est vraiment un type que j'aime bien et un pilote que j'aime bien. Alors, bon, un peu à l'anglaise, vous voyez ce que je veux dire.
So British.
Voilà, so British.
So gentleman.
Il est tous les accessoires. Bon, mais...
Ouais, c'est ça. Louis, globalement, sur la perf des Mercedes. Il y a également le premier podium en carrière de Kimi Antonelli. Bon, ça prouve quand même que la voiture était prête. D'ailleurs, ils ont réagi en disant que c'était pas forcément à cause de la température à Las Vegas. Le dernier doublé qu'ils avaient fait, c'était parce qu'il faisait froid. Ils pensaient que c'était à cause de ça. Finalement, ils se sont rendu compte que là, au Canada, ils pouvaient aussi, dans des conditions plus chaudes, être capables de faire des choses. Pareil, Antonelli, premier podium en carrière. C'est quelque chose de fort. Surtout qu'il avait très bien démarré la saison, Louis, et que là, il commençait à être un peu plus dur, hein, il marquait un peu le pas.
Ouais, il avait eu un triple header compliqué, il l'a dit lui-même, que ça a été un peu compliqué à gérer, qu'il a sûrement appris beaucoup de choses sur un peu, on va dire, les différences entre des catégories inférieures et la F1, c'est que trois semaines de suite, avec toute la pression et tout ce que ça demande, ça nécessite, c'est hyper compliqué à gérer. Ce qui rappelle aussi que des mecs qui ont 10 ou plus, 10 années ou plus en F1, c'est quand même des grands champions, même si, quand même, parce qu'on oublie parfois quand même qu'ils sont quand même à 300 entre les murs 24 fois par an. Donc, première chose. Et puis, très belle réaction de sa part. Je me demande si Norris ne lui sauve pas son podium, parce que ça... Quoique, est-ce que Piastri aurait pu le doubler? Je sais pas vraiment, parce qu'il était quand même, quand même un peu trop occupé à gérer Norris.
Ouais.
Mais donc en fait, les McLaren, on va dire, lui ont sauvé le podium, parce qu'il y en aurait eu qu'une, je pense qu'ils auraient pu aller le chercher. Mais il fait un week-end solide et il impressionne, parce que c'est vrai, comme on se disait, premier petit souci pour lui dans la saison, tout ça, et là, paf. Podium, c'est une très très bonne perf, très belle course, très solide. Franchement, il confirme quand même, pareil, que lui, il a un sacré talent aussi, quoi, je pense. J'aime beaucoup.
18 ans.
Moi. Ouais, parce que oui, c'est ça. C'est que,
en termes de précocité, c'est le troisième monter sur le podium à 18 ans. Il y a Verstappen et Lance Stroll. Ah, cette stat, elle est hallucinante.
Et voilà.
Quand j'ai vu Lance Stroll, je me suis dit non.
Lance Stroll dans un bon jour, certaines c'est là, voilà. Ouais. Non,
Et Kvyat est sixième, pour vous dire.
Mais
dans
c'est fou.
Dans la précocité. Ouais.
J'ai vu la stat, et tu sais que j'ai regardé deux, trois fois, je me suis dit Lance Stroll. Attends, je me suis dit. Non, mais Jean-Luc, un premier podium à 18 ans, ça marque un pilote, ça marque un champion. Champion, hein, quand même, hein, ces records de précocité comme ça, c'est jamais dû au hasard quand tu fais un podium aussi jeune.
Absolument, non, mais c'est génial, vous avez déjà tout très bien résumé, c'est encore un gamin, là je crois que demain il passe des examens, il retourne au lycée pour passer des examens, je crois l'équivalent du bac, ou enfin, c'est incroyable quoi, et puis il est frais, il est sympa comme tout, il est souriant, il était touché de voir qu'effectivement il y a une belle communauté italienne à Montréal, et donc effectivement ils étaient tous là, lui il a eu plusieurs Grands Prix à domicile, hein. Il a eu Imola, là il jouait vraiment dans sa cour, puisque vous vous rappelez qu'il y avait tous les gamins de son école qui était venu le jeudi, il leur a montré, il s'en est mis de la pression. Après, il y avait Monaco, Monaco c'est l'Italie, on y va carrément aussi, il n'y a qu'à voir comment les collines sont envahies, dans le bon sens. Et donc, effectivement, il a un peu explosé sous la pression, et puis là, il récupère, là, il fait un boulot remarquable, avec une monoplace qui a retrouvé de la vigueur et de la performance, il fait absolument zéro faute, hein. Ça se joue au départ, il parvient, c'est pas rien quand même, à déborder Piastri, et il a fait le boulot, et après, la McLaren, vous avez remarqué, tour après tour, elle devient de plus en plus large. Elle faisait 3,50 m à la fin, donc je pense que pour le passer, là, il allait vraiment falloir passer sur l'herbe de chaque côté. Non, il a fait également un très très beau travail défensif, ce qui n'est pas évident à cet âge-là. C'est super, c'est le carton plein, il mérite tout ce qui lui arrive, et puis il l'a déjà dit, mais à sa manière, vraiment très sympa. Maintenant, que vise-t-il ? La victoire, bien sûr.
Et ouais, on va l'écouter, Andrea Kimi Antonelli, après sa troisième place au micro de Canal.
Yes, super happy. To be honest, really happy with the result.
And, honnêtement, très heureux de ce résultat.
Because I got track position.
Vous savez, je pense que le départ a été décisif parce que j'ai gagné une position sur Oscar Piastri. Le rythme était bon dans le premier relais et j'étais capable de suivre et de rattraper Max à la fin. Et pendant le dernier relais, j'ai un peu trop poussé, le pneu avant gauche a commencé à se dégrader. C'est ce qui m'a mis un peu en difficulté sur la fin de la course, mais je suis très heureux d'avoir tenu et j'espère qu'on pourra continuer sur cette lancée. Et alors là, les gars, je fais référence à mes souvenirs parce que je crois que dans les pronos du début de saison, c'est pas Alexandre Caldi qui m'avait vendu une petite victoire d'Antonelli. cette saison.
Si, mais bon, on en est encore loin, ouais.
Non, mais ça avance, Alex. Le projet Antonelli 2025, la victoire, ça avance.
Ça avance très bien. Et puis surtout, Mercedes en globalité, 40 points près au Canada quand même. Hein. 40 points. Ouais. C'est la seule écurie d'ailleurs sur ce début de saison qui a pris autant de points sur un seul et même Grand Prix. À égalité d'ailleurs avec eux et McLaren en Australie avec 27 points les deux. Quoi.
Monaco, je crois, Alex. Hein. 40 pour McLaren.
Oui, bah égalité d'ailleurs. Ouais.
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 C'est ça. Et Bahreïn également, McLaren.
Ah oui, donc ta stat est vraiment pourrie.
Non, je disais.
C'est pas grave, non, c'est non. Pas pour le contredire, non, mais non, comme je l'ai sous les yeux,
attendez,
c'est pas dur. Hein.
Attendez, non, je disais, Mercedes est la seule écurie avec McLaren à avoir pris le plus de points sur un seul et même Grand Prix. Voilà. Par exemple, au Canada. Sinon, il n'y a personne d'autre qui l'a fait, par entre
les d'accord, on l'avait pas.
Red Bull, est donc une voiture, il peut pas mettre 40 points.
Je me disais, il se trompe jamais sur les stats, ça m'étonnait.
Miami, par exemple, McLaren, ils ont pris 58 points, t'imagines?
Bah parce qu'il y avait trois courses, c'est pour ça.
Ah aussi, c'est vrai.
Je vous ai pas donné le classement là. Au classement des pilotes, il est remonté. Antonelli, alors il est remonté 7e, à la
63
position. Ouais, exactement.
Bah, il est qu'à 16 points d'Hamilton, rendez-vous compte.
Ouais.
16
ouais,
points.
Ouais. Ah, bon, je pense que la transition est faite sur Ferrari quand même. Hein.
Bah, on peut y aller d'ailleurs, justement. Exactement. Ah, alors, bah, je voulais parler de Verstappen, mais vous savez quoi? Est-ce qu'on a vraiment des choses à dire sur Max?
Bah, c'est le meilleur pilote aujourd'hui en Formule 1. Il fait ce qu'il peut.
Super
et
boulot.
Voilà.
Super boulot.
Super boulot,
et pas d'erreur.
Voilà. Et bon, du coup, on va même pas faire long sur Max Verstappen.
Juste dire bravo. Merci
Ferrari.
Pour le divertissement. Ouais.
Voilà. Et heureusement Ferrari qu'il est là une nouvelle fois. Hein.
Ouais, ça c'est clair. Ouais. Ferrari qui est dans le dur. Ferrari qui est sous pression. On a vu que Frédéric Vasseur, on en a parlé nous dans le warm-up de ce Grand Prix du Canada. Hein, si vous voulez écouter le warm-up, on a parlé des pressions qu'il y avait avec Louis, avec Sarah Finbet sur Vasseur, mise par la presse italienne. Ouais. Fred Vasseur qui a contre-attaqué de façon ferme. Je vais pas dire virulente, mais ferme et très lucide comme souvent. Malgré tout, c'était un Grand Prix un peu différent dans ce contexte-là pour Ferrari, Jean-Luc. Et c'est dur, ça reste dur, que ce soit le samedi en qualification et même en course, c'est la galère quoi.
Écoute, c'est un peu le Grand Prix, oui, des occasions manquées, et ça commence évidemment au qualif. Alors, ça commence avant pour Charles, bien sûr, hein, qui là aussi assume. Bah, il se met dans le mur au 9e tour, hein, en FP1. Bon, après, c'est vrai qu'il a bien rattrapé. En FP3, ça fonctionnait à peu près correctement. Mais enfin, quand même, c'est un handicap que tu trimbales, il n'y a rien à dire. Malgré tout, c'est du temps de test, de développement pour les pneus, justement, pour les réglages, pour tout. Donc, c'est du temps perdu. La première journée, quasiment perdue. Et puis ensuite, bah, en qualif, il se rate, alors gêné en partie par le trafic, gêné en partie par le dirty air et par ce que vous voulez. En tout cas, il l'assume aussi, il s'est raté. Et quand on part effectivement d'aussi loin, et loin derrière Hamilton 6e hein, et Charles 8e, Hamilton qui fait encore un Grand Prix moyen pour évacuer aussi le sujet très rapidement. Il n'y a pas de grande... Alors je sais bien, sa monoplace effectivement est dégradée par la collision avec la marmotte pendant la course. Mais bon, il y a toujours une bonne raison. Je sais bien, il se plaint des freins, il n'a jamais vu des freins pareils. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Ça, c'est pas très sympa. Il dit, depuis que je suis en Formule 1, jamais eu des freins comme ça. Bon, bah ok. C'est pas le même feeling, c'est évident. C'est pas le même prestataire, on le sait bien. C'est Brembo, hein. Donc voilà. Bon, mais quand même, il devrait, avec le palmarès qu'il a, avec le background qu'il a, avec l'expérience qu'il a. Non, demi-teinte pour Hamilton. Quant à Charles, ben, il n'est pas à son niveau, comme il part de trop loin. Alors, est-ce qu'il aurait pu faire mieux quand on voit devant la capacité des Mercedes, on vient longuement d'en parler, et celle des McLaren qui n'est plus à démontrer. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Je ne suis pas sûr. Franchement, même en partant mieux sur la grille, c'est-à-dire sur la troisième ligne peut-être, cinquième ou quatrième, allez, au mieux, est-ce qu'il terminait mieux que cinquième? Je ne suis pas certain, vu la capacité de la Ferrari en course, très honnêtement, hein, vu l'exploitation, la dégradation des pneumatiques. Alors, il avait une stratégie totalement décalée, bien sûr. Tout comme Norris, hein, on vient de l'évoquer. Et ce qui a un peu perturbé Russell, il n'avait que ça à faire, hein, partir avec des durs. D'ailleurs, pour vous faire rire et mettre un gros pavé dans la mare ou dans le jardin de nos amis de Pirelli, Pirelli n'avait même pas envisagé qu'on puisse partir en dur. C'est incroyable. Ouais. Dans les prévisions, vous aviez les médiums, avec évidemment après dur ou un nouveau médium ou deux fois dur, bon peu importe, et vous aviez les slicks. Ils n'avaient même pas envisagé qu'on puisse partir en dur. C'est quand même énorme.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Louis, elle te fait souffrir ta Scuderia. Hein. Oh là là, mon Louis.
Ouais, ouais. Là, en ce moment, c'est vraiment pas drôle parce que tout est moyen et puis là, t'arrives dans dans ce que les tifosi savent faire de mieux, mais ce qui est affreux, c'est-à-dire tu vas entendre sortir de tous les côtés des rumeurs, des ceci, des cela, et c'est tout sauf sain et tout sauf ce qu'il faut à une équipe pour se remettre à tous tirer dans le même sens et sortir quelque chose de cette saison, parce que même si tu es potentiellement déjà sur celle d'après, cette saison, la Scuderia peut pas se permettre de pas ramener au moins une victoire par rapport aux attentes qu'il y avait en début d'année. Alors, ça serait pas la première fois qu'il n'en aurait pas, mais c'est quand même souvent assez rare. Et surtout, avec les attentes qu'il y avait cette année, ça serait quand même assez fou. Hamilton, vous en parliez, il est pas content, il se plaint beaucoup tout le temps. C'est aussi un peu énervant, mais il se plaint de ne pas être écouté. J'ai l'impression que je l'entendais dire exactement la même chose à Mercedes. Donc, savoir s'il n'est vraiment pas écouté.
Ouais,
si,
c'est le personnage.
Tu vois, voilà, c'est ouais, peut-être un peu ouais, le personnage. Il parle également de vouloir vraiment être au plus près de ce qui va se passer sur la voiture de l'année prochaine pour s'assurer que la voiture soit bien meilleure que celle de cette année et surtout dès la première course de la saison, parce qu'apparemment lui, ce qui l'agace aussi, c'est d'être parti de si loin finalement, tu vois, il s'attendait lui aussi à une voiture bien plus compétitive bien plus tôt, donc ça va être compliqué. Charles égal à lui-même, il fait du mieux qu'il peut, et en ce moment je rejoins Jean-Luc, bon, c'est pas le mieux qu'on ait vu de lui. Je pense aussi qu'à un moment, ça a beau être un rock mental et que un battant, un compétiteur, il y a un moment, quand ça fait aussi longtemps que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux avec ton matériel, il y a un moment où peut-être que tu fais les choses un peu moins bien, tu vois, dans une espèce de manque de motivation ou de frustration. Ce qui peut expliquer tout ce truc un peu, tu vois, sable mouvant, quoi. C'est vraiment pas la ouais, bonne dynamique. Tu vois, Alex parlait de dynamique en début de podcast. Bah, clairement, la Ferrari, c'est vraiment une mauvaise dynamique. Et avant de penser à repartir du bon pied, il faudrait déjà stopper l'hémorragie un peu. Et ça mérite une course où, déjà, juste, on sans parler de résultats le dimanche, que du vendredi au dimanche, tout soit
ouais,
bien fait,
plein,
tu vois.
Ouais,
un week-end plein ouais, du côté de l'équipe. Sans parler de performance pure ou quoi, juste, voilà, on a... bon, ils ont les pit stops, c'est le seul truc qui tient debout en ce ouais, moment, qu'ils les gardent et que tout le reste arrive à ce niveau-là déjà, et puis après, ça viendra comme ça. Là, ça s'éparpille à l'italienne, j'ai envie de dire, à la tifosi, et c'est pas bon, voilà, quoi.
Là, ça part en sucette. On écoute Hamilton, Alex, et je te yes, fais réagir. Lewis Hamilton. Il y a toujours quelque chose à prendre de ce qui se passe sur la piste. Nous avons appris. Nous avons fait des... Ouais, je ne vais pas dire des erreurs, mais il y a clairement des choses qui auraient pu être améliorées dans l'opérationnel. Mais autrement, de toute manière, j'étais nulle part. Je suis très reconnaissant malgré tout d'avoir marqué des points. C'est bien d'être sixième après tout ça. Voilà. Et je vous ai épargné le passage sur la marmotte. Lewis ouais, Hamilton, je vous le dis quand même, mais qui dit j'ai heurté quelque chose en pleine ligne droite, je savais pas ce que c'était, je n'ai pas réussi à le distinguer dans mon rétro. Quand les gens m'ont dit que c'était une marmotte, ça m'a dévasté. J'aime beaucoup les animaux, je ne me sens vraiment pas bien.
Des années à pas manger de viande pour pas tuer d'animaux, et puis là, bam, avec sa bagnole.
La satanée marmotte.
C'est un lifestyle qui lui tient à cœur. Donc
ouais.
Mais chaque année, on les voit aller traverser les pauvres marmottes. Ah, hein. Dès les essais libres, elles n'ont pas l'habitude.
Il est dans un jour sans fin et il rentre dans une marmotte. Ouais. Boucle.
Alex, Ferrari, là, qu'est-ce que. En fait, j'ai l'impression moi, que c'est un petit peu un week-end charnière pour Ferrari, parce qu'il y avait mine de rien cette pression populaire qui commence à être remise. Et tu vois que c'est compliqué d'inverser les choses. Donc tu te dis que, et moi je me dis que cette pression, elle va faire qu'augmenter et que ça va commencer à être intenable en fait.
En fait, tu parles de pression populaire, mais c'est plus une pression interne. Que Frédéric Vasseur soit en danger aujourd'hui, surtout avec un contrat qui se termine à la fin de la saison. Allez, parlons de lui directement. C'était pas étonnant. C'est la seule écurie Ferrari dans le Big Four qui n'a pas remporté une seule course. Red Bull l'a fait, alors qu'ils étaient en difficulté avec Max Verstappen. Pourtant, McLaren, forcément, ils sont à des années-lumière, évidemment qu'ils le font. Et Mercedes, qui était loin du rythme de McLaren, et même par rapport à Max Verstappen sur le début de saison, était régulière. Et finalement, aujourd'hui, il faut un double podium, dont une victoire de George Russell. Forcément, aujourd'hui, Vasseur est en danger. Et c'est tout à fait logique et c'est pas une incroyable nouvelle. Cependant, moi, ce qui m'étonne, c'est le contexte et la situation et le timing. On arrive quand même sur le 10e Grand Prix de la saison au moment où ces rumeurs, informations, même on peut le dire, sont sorties. Ça veut donc dire que Ferrari, Maranello, et je pense que Jean-Luc pourra nettement mieux en parler par rapport à moi, c'est un univers extrêmement politisé. Donc il y a quelqu'un en interne, et je parle pas de l'ingénieur qui peut être un ingénieur simple, c'est même de la Skoda Ferrari, qui a pris son téléphone et qui a envoyé plein de mails, plein de messages à différents médias. C'est quelqu'un d'extrêmement important en interne chez Ferrari, à mon sens, et j'en suis sûr et certain, qui a commencé son petit jeu politique pour que Vasseur puisse dégager, oui, pour que quelqu'un puisse reprendre la tête de la Skoda Ferrari. J'en suis sûr et certain, et ça serait même pas absolument étonnant, dans le sens où Ferrari, ça marche comme ça politiquement parlant. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que la situation chez Ferrari, c'est un échec, oui ou non? Bah, on peut presque dire que oui. Pourquoi? Par rapport aux ambitions qu'on avait au début de la saison. Quand Lewis Hamilton arrive, on nous annonce « Ah, on est là pour gagner. 2025, on va aller gagner. On a changé la voiture à 99,9%. Maintenant, on arrive avec Lewis Hamilton. 2025, on va faire en sorte que ça va être notre année. » On en est où aujourd'hui? On fait une 6e et 5e place, surtout avec un abandon de McLaren au Canada, avec une voiture qui est à l'heure actuelle mal comprise, peut-être même mal née, où Hamilton est frustré. Et Hamilton, surtout dans ses déclarations, excusez-moi, mais les déclarations d'Hamilton sont assez perturbantes, dans le sens où il parle qu'il aimerait parler de ce qu'il se passe en interne du côté de chez Ferrari, il l'a dit à Sky Sports, mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire à l'heure actuelle. Donc on sent qu'il ne peut pas exprimer tout ce qu'il pense. Leclerc forcément fait tout ce qu'il peut, et dans le même temps Vasseur, bah c'est vrai qu'il faut le dire, Vasseur il y a quelques grands prix de cela, quand on sentait encore plus la pression qui commençait à monter autour de lui, bah, il parlait avec presque une certaine langue de bois qui était un peu frustrante d'une certaine manière pour essayer de rassurer les troupes, mais aujourd'hui la situation est tellement compliquée en interne du côté de la Skoda Ferrari, de ce que l'on ressent et de ce que l'on voit, au point où Leclerc et Vasseur sont montés dans les tours, on va dire ça ainsi, mais dans la finalité aujourd'hui, Ferrari c'est nettement trop loin et c'est logique que Vasseur soit en danger aujourd'hui.
On va suivre ça avec intérêt, bien évidemment, parce que...
Je rajoute juste un point, juste vas-y. Contexte quand même de ce week-end, Ferrari fait quasiment un triplé au Mans, et là aujourd'hui, tu passes de 4 heures après le Mans, tu arrives sur le Grand Prix du Canada, tu vois Ferrari à l'agonie. Au bout d'un moment, et John Elkann et Benedetto Vignali, c'était devant moi chez Ferrari, hein. Donc ouais, bon, ils étaient au Mans en train de justement parler avec un certain Antonio Colletta qui pourrait prendre la place de Vasseur.
Tiens, et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais cet accrochage des McLaren, il intervient au moment où Zak Brown, il n'est pas sur place. Hein, il était au Mans, hein, Zak Brown, hein, pour présenter le projet
et Vasseur,
2027.
Et Vasseur était là jeudi au Mans, d'ailleurs. Donc il a pris après...
Voilà les gars pour Ferrari. Moi je voulais qu'on parle aussi d'Esteban Ocon. Esteban Ocon qui a fait un coup stratégique là, Jean-Luc, assez dingue pour marquer des points. Esteban Ocon qui fait une saison qui est très difficile à lire parce que des fois on a l'impression qu'il est nulle part, vraiment, au fin fond du plateau. Et par contre, dès qu'il arrive à avoir un petit peu de perf, ça marque des points. Elle est bizarre cette saison d'Esteban, hein.
Ah oui, bah écoute, Esteban, encore une fois, on le réaffirme, il a énormément de talent, surtout en course. C'est vrai que là, aux essais, il part effectivement 15e sur la grille, derrière Oliver Burman. Bon, c'est pas terrible, enfin 14e avec la pénalité, c'est pas terrible, mais il s'en sort toujours magnifiquement grâce à un premier relais de folie, en partant lui aussi en pneu dur, bien évidemment. Il fait 58 tours, c'est incroyable, sur 70. Donc les 12 derniers tour avec les médiums, et là il maintient bravement sa position, c'est absolument magnifique. Alors vous allez me dire, oui, il y a Nico Hülkenberg qui est devant, mais Hülkenberg était quand même parti lui 11e, c'était déjà un peu plus facile à gérer. Alonso lui termine 7e, mais Alonso lui était parti 6e, bon je vais arrêter, je veux dire Esteban il a une solidité en course qui est absolument incroyable, il ne commet pas d'erreur, il est capable de gérer la preuve des pneumatiques dans des conditions terribles, et puis là cette année en course, elle tient la barre, hein, elle est à peu près performante et il est toujours là, donc moi je suis absolument ravi. Là il fait un exploit, moi je considère que vraiment là, sur ce Grand Prix là, il fait un exploit, il prend des points à nouveau, au championnat il progresse, c'est largement mérité, il lui faut une pointe de vitesse supérieure en qualif, mais il le sait bien.
Tiens, on l'écoute sur cette stratégie de folie là qui lui a permis de marquer deux points.
Ouais, il faut toujours qu'on fasse des trucs un peu de fou pour essayer de rentrer dans les points à un moment, mais c'est clair que Ouais, c'était bien vu de la part de l'équipe d'essayer une stratégie comme ça. Et en fait, on a vu que chaque tour, on améliorait en performance, on allait de plus en plus vite. Et en fait, cette usure qu'on voyait sur le pneu, elle s'en allait de plus en plus. Donc, c'est comme si j'avais un pneu de plus en plus neuf à chaque tour que je faisais. Donc, j'aurais pu très bien finir la course, il fallait pitter, forcément. Mais voilà, c'était en tout cas top de la part de l'équipe de tester ça. Et puis, on a réussi à finir dans les points, donc parfait.
Alors Nico, voilà. Si tu me permets, ouais. Vous l'attendez toujours, évidemment, les temps en course. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de grosse différence. Le plus rapide, c'est George Russell en 1:14.119. On vient d'écouter Esteban, qui termine 9e. Alors, il a fait son temps au 63e tour. Hein. Eh bien, Esteban a tourné en 1:14.593. Je veux dire, c'est pas énorme du tout. C'est 4 dixièmes. Et le reste est dedans. Hein. Verstappen, 1:14.287. Antonelli, 1:14.455. Je ne vais pas tous vous les asséner. Mais ils sont très proches les uns des autres. Et ça, c'est intéressant pour la suite de la saison. Sur un tracé atypique. Mais ça démontre qu'en course, les performances, parfois, ne sont pas tout à fait en accord avec ce qui se passe en qualif.
Les gars, quoi penser du week-end d'Isaac Hadjar, qui fait encore une bonne qualif, Louis ? Mais après en course, j'ai l'impression que c'est la première fois que Racing Bull n'y était pas et qu'il pouvait pas faire grand chose.
Ouais. Alors moi je t'avoue que j'ai pas compris la course parce que Hadjar, j'ai regardé un peu sa course au début. Après je regardais plutôt d'autres écuries, d'autres pilotes. Je l'ai un peu perdu de vue et d'un coup je l'ai retrouvé 16e et je me suis dit il vient de pitter, ça va remonter. Et puis en fait finalement il n'est pas vraiment remonté, donc je pense qu'à un moment il a perdu du temps et je l'ai, j'ai pas bien compris. Mais du coup oui, course assez compliquée. Pour lui, alors que au début de week-end encore solide, à un moment je me faisais la remarque, je dis c'est quand même le français numéro 1 alors qu'il est rookie. Bon, après on sait que c'est un sport mécanique, hein, donc il faut aussi la voiture évidemment, mais quand même, quelle solidité, ça fait plaisir à voir et ça donne un peu de baume au cœur quand vous le savez, je regarde de très près ce que fait Gasly et Alpine. Et que ça, à l'inverse, c'était eux aussi ont tenté, tu vois, comme Haas et Ocon, il l'a dit aussi Pierre. Et puis, mais sauf que eux, ils n'y arrivent pas à faire des coups, quoi. C'est que y a rien qui va, quoi. Donc ouais, Hadjar peu solide. Après, est-ce qu'il a appris de cette course un peu plus compliquée, j'espère.
Tu veux lui poser la question ?
Écoute, moi quand il faut parler à Isaac,
pose la,
c'est toujours
la question. Isaac Hadjar, il va
alors Zakou, là, qu'est-ce que tu nous as fait hier ?
Non, on n'avait pas de rythme après un bon départ. Mais on a souffert très tôt et on a pris du greening au bout de 10 tours et on s'est arrêté trop tard, j'ai pas compris pourquoi on est resté aussi longtemps. Donc en fait on a juste perdu des positions et on a pité juste après avoir perdu des places. Donc, et après dans un train, mais honnêtement je sentais que j'étais le plus lent du train, donc j'ai essayé de me battre comme je pouvais, mais après à la fin il y avait les mecs en médium neuf, j'avais aucune chance, donc bon. C'est comme ça, c'est les courses sans rythme, c'est un peu dur.
Merci Isaac.
Merci
mon Zach.
C'est
clair comme de l'eau de roche. Il s'est pas arrêté si tard que ça. Hein. Il s'est arrêté au 15e tour. Quand tu sais que le premier c'est Verstappen au 13e, Russell au 14e, etc. Non, il s'est pas arrêté.
Oui, mais
si
tu vois,
ce
qu'il dit Jean-Luc, c'est qu'il avait du graining dès le 10e. Ouais. Donc je pense que lui, il aurait aimé switcher rapidement. Tu vois.
Ouais, c'est vraiment graining.
Et oui, mais
pas
comme
de rythme.
Apparemment, ils étaient sur une trate à un arrêt, hein, semble-t-il. Bon. Enfin bon.
Oui, c'est
cadeau. Hein.
Je rappelle quand même qu'Isaac Hadjar a surtout répondu à nos confrères de Canal+.
Évidemment. J'imagine bien le mec qui écoute là et qui se dit.
Ouais, il vraiment était dans le studio là.
Ils lui ont posé une question sur 15 secondes. Les blaireaux.
Si vraiment tu y as cru, va voir un médecin, mon pote.
Est-ce que vous voulez revenir sur des perfs en particulier là, dans ce Grand Prix, Alex, Jean-Luc, y a, mine de rien, il y a Alonso qui fait sa meilleure course depuis le début de saison et qui score pour la deuxième fois consécutivement. Ça veut dire qu'Aston, il y a peut-être un léger mieux, j'ai envie de vous dire.
Il y a un pilote en particulier qui, moi encore, mes pattes depuis le début de la saison 24. Hein. Il est toujours là, Nico Hülkenberg. Hein. Huitième.
C'est incroyable
avec un seul arrêt.
Avec un seul arrêt, avec une modeste Sauber. Aussi, il faut toujours dire modeste par rapport à où est-ce qu'elle en était l'année dernière et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui avec tous les changements qu'il y a pu avoir en début de saison et sur la voiture avec James Kay qui est en tant que directeur technique. Et c'est vrai que là je suis très content pour Sauber parce que là on sent que ça va dans le bon sens et surtout c'est peut-être encore un peu trop loin pour dire que ça va bien aborder le projet Audi qui débutera l'année prochaine, mais c'est vrai que ça apporte du baume au cœur pour une écurie qui a vécu des moments difficiles sportivement.
Il est 11e au championnat, Nico Hülkenberg, Jean-Luc. Hein. Et il devance une Aston Martin, enfin deux Aston Martin, la Williams de Carlos Sainz.
Ouais,
c'est vrai ça. Que c'est top. Hein.
Ah ouais, il est juste derrière Ocon et Hadjar, hein, 22, 21, 20. Non, il est très solide et c'est effectivement ça. Bon, ça fait plaisir. C'est toujours agréable quand quelqu'un qui est nulle part, et on peut dire que vraiment l'écurie Sauber était nulle part, hein, au début du championnat. Là, effectivement, il y a des améliorations qui ont été apportées. Et puis lui est extrêmement solide. Alors, petite, malgré tout, enfin légère déception pour Bortoleto. On attendait un poil mieux peut-être. Hein. Bortoleto, il est 15e sur la grille, termine 14. Bon, c'est pas du niveau de Hülkenberg. Il va falloir qu'il progresse. Pourtant, on connaît les qualités du pilote du champion en titre de Formule 2 quand même. Hein. Qui lui aussi a pas de problème. Il est sécurisé pour l'an prochain, etc. Il va falloir qu'il s'améliore un petit peu. Puis c'est la meilleure façon de pousser l'écurie quand les deux pilotes se tirent la bourre. Alors, tu as parlé rapidement d'Alonso, mon Nico, et moi je souhaite y revenir, parce qu'autant on était tous atterrés de le voir ne pas marquer de points depuis le début du championnat, l'Aston était nulle part, et puis bon, il a eu pas mal de malchance, bah là il est solide. Alors vous allez me dire, oui, il part 6, il finit 8, mais 7, pardon, mais je crois qu'il n'y avait pas vraiment moyen de faire mieux, et puis tu vois, il est déjà au-dessus de la barre des 1.15 hein, en course, c'est quand même un critère, une référence absolue, là aussi, il n'y a pas la perf pour le moment pour l'Aston. Quant à Stroll, je vais quand même en dire un mot, alors comportement, je ne sais pas si vous l'avez vu, inqualifiable en conférence de presse. Là, franchement,
non,
je comprends.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oh, bah écoute, et alors, il revient. On rappelle qu'il n'a pas roulé hein, lors du dernier Grand Prix parce qu'il était blessé au poignet, oui. Soi-disant. Je suis obligé de le dire comme ça, hein. La résurgence des problèmes qu'il avait handicapés au début de la saison. Il avait chuté à vélo, vous rappelez, fracture, opéré. Il revient tout de suite, courageusement. Là, il fait le boulot. Et puis, il faut reconnaître que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est lui qui avait marqué les points d'Aston. Bon, voilà, tout ça, c'est fait. Maintenant, il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait, là. Il est... Littéralement, il n'en a rien à foutre, il n'y a pas d'autre mot. Il est vautré sur le canapé et puis il répond d'un mot ou de deux mots quand on lui pose des questions sur sa blessure, sur la compétitivité d'Aston, sur le fait qu'il est quand même chez lui. C'est un pilote canadien, il roule devant son public. Il n'en a rien à faire. C'est insultant pour tout le monde, pour les gens qui regardent ça. Moi, je me suis senti vraiment insulté. C'est un abruti, quoi. J'y vais carrément. C'est un abruti. C'est un type qui a... Je l'ai défendu longtemps, hein, vous le savez, parce que tout le monde lui tapait sur la tête, parce que c'est le fils à papa, tout le monde le sait. Bah là, je dis qu'il a un comportement humain nul à chier. Voilà.
Ouais. Et puis surtout, tu parlais de sa blessure. Alors, je... Je ne pense pas que la BBC plus ESPN disent des bêtises non plus et balançaient des informations d'une telle envergure. Mais s'il se serait fait mal à la main à nouveau et que ses blessures se soient réveillées, ce serait plus parce qu'il a pété un câble lors du Grand Prix d'Espagne en qualification, ce qui lui a fait manquer le Grand Prix le lendemain, parce qu'il est allé au-delà d'être très injurieux, semblerait-il, encore une fois, avec... ses mécaniciens, le personnel Aston Martin, il a surtout frappé dans les murs, dans le garage, est-ce qu'il aurait pété la main ? Donc bon, ça aussi, ce comportement, lol.
Si c'est le cas, c'est lamentable. Qu'il sent, c'est encore plus lamentable.
Il sent probablement que c'est la DER, quoi.
Hein, l'ami, ah bah oui. Et là, d'où, attends, et pour être honnête, d'où les informations, et pour le coup, il faut le dire, qui sont sorties aujourd'hui, le lundi 16 juin, de motorsports.com, comme quoi Aston Martin envisage très sérieusement George Russell, et ça répond notamment par rapport à tout à l'heure, quand on disait pourquoi il n'y a pas de contrat à renouveler pour Russell. Je pense que la raison
comme
est là.
Apparemment, la piste Verstappen ne sourirait pas, malgré l'arrivée de Newey, parce que c'était quand même leur objectif premier. Hein.
Mais s'ils le font, alors petit à petit, s'ils le font, ils arrivent à voir Russell pour l'année prochaine, Mercedes, alors là, on a un drama absolu qui arrive, hein, j'ai hâte de ça.
Absolument. Merci Toto. Bon, on verra la tête à Toto. Là,
ah oui, là, ça va être super intéressant. Mais on va bientôt se faire un truc là sur la silly season et tout ça là. Sur
bah là, on va
entrer
dedans.
On va se faire un podcast dans pas longtemps. Les gars, je voulais vous entendre sur une news qui est tombée aussi hier, sur une info qui est tombée qui concerne Renault et plus particulièrement Alpine. C'est le départ du big boss Luca de Meo, qui avait notamment tout fait pour que l'écurie de Formule 1 change de nom, investisse. Sur l'écurie Alpine, Jean-Luc, quel signal s'en va ? Quelles conséquences ça peut avoir sur l'écurie, déjà pour toi, ce départ de Meo, et quel signal ça envoie ?
Bah, conséquence énorme, évidemment. Hein. C'était effectivement un fan de la F1. Il avait réaffirmé, et c'est lui qui avait été au départ sur le fait qu'on a renommé l'écurie, hein, parce qu'il faut quand même le dire comme ça. Cette écurie, historiquement, elle s'appelle Renault. Enfin, elle s'appelait Renault. Donc, on l'a nommée Alpine pour des raisons marketing. Pourquoi pas ? Après tout, c'est son choix. Je crois qu'il a fait plutôt du bon boulot à la direction de Renault, d'une manière générale. Maintenant, bon, il part sous d'autres horizons. Mais enfin, c'est lui qui avait appelé Briatore, son copain Briatore. Alors, on peut se poser toutes les questions du monde. Hein. Bon, les choix ont été faits, malheureusement, d'abandonner le moteur fabriqué à Viry, que je vais continuer à appeler le moteur Renault, puisqu'on est en train complètement de démanteler toute cette pépite d'ingénieurs et de talents. Ça, c'est lamentable. Et ça, moi, je leur en voudrais toujours, hein, parce que c'est la fin de la Formule 1 française, pour être clair. Donc, bah oui, on peut penser, on n'a pas à un moment, il y avait des bruits là aussi, toujours régulièrement, sur la vente de l'équipe anglaise, hein, bien sûr, l'équipe d'Enstone, bah, peut-être que ce sera le dernier boulot de Briatore, j'en sais rien. Il doit être en train de ranger ses stylos, de les sortir des tiroirs, et puis peut-être que sa dernière mission, ça va être de céder au mieux, parce qu'il y a du monde qui veut rentrer en Formule 1, et comme vous le savez, maintenant, c'est un jeu, c'est... Bon, il y a l'arrivée de Cadillac, mais je crains que ça ne dure pas longtemps, Alpine en tant que tel. Voilà mon sentiment. Et je crois même que ça ne va pas durer longtemps.
Ouais, je suis d'accord. C'est un démissionnaire surprise, hein, Luca de Meo. Hein. Ce n'était pas attendu qu'il démissionne. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est lui qui a redressé, notamment, plus particulièrement, Alpine aujourd'hui en tant que marque automobile. Il a remis le groupe Renault, il faut le dire, dans le droit chemin. Car of the Year, sur 2 années de suite, il me semble, avec Renault en particulier. Mais aujourd'hui, c'est celui qui, j'ai envie de dire, permettait à Alpine d'être toujours en Formule 1, même en tant que nom de marque plus particulièrement. Et ça que je rejoins Jean-Luc vis-à-vis de l'avenir de l'écurie. Très sincèrement, j'ai du mal à imaginer que l'écurie aujourd'hui, Enstone, reste du nom d'Alpine. Et surtout que Luca de Meo est un amoureux du sport automobile. Il a redressé Fiat et également la marque Seat. Mais un amoureux du sport auto, et c'est en particulier lui, après Laurent Rossi, qui a fait en sorte que Renault reste en Formule 1 avec Alpine, le prochain aujourd'hui qui va être le PDG du groupe Renault, pas sûr que ce soit un passionné de sport auto comme Luca de Meo ou comme l'était également d'ailleurs Laurent Rossi dans
et
un
Carlos
autre
Ghosn,
registre.
Hein, et Carlos Ghosn, il faut aussi lui rendre aussi cette justice, hein, c'est lui qui a fait revenir Renault.
Ouais, et à un moment, il faut se souvenir que 2019-2020, Renault ne devait plus être en Formule 1 parce qu'il y avait eu des gros signaux d'alarme pour dire que c'était ça coûtait trop cher au groupe Renault. Luca de Meo est arrivé et a fait non, on reste en Formule 1. Maintenant, là, curieux de savoir le prochain PDG s'il a le même amour pour la Formule 1 et le sport auto que Luca de Meo.
Ça, c'était pas un podcast pour toi, mon Louis.
Non.
Entre Ferrari, Alpine et tout ça. Là,
oh, c'est beau. Oui. Et en rappelant une chose, hein, c'est que l'image d'Alpine, je suis désolé de le rappeler, puisque Alex, tu étais au Mans et on a tous suivi les 24 heures de très près. Bah, l'image d'Alpine, bah, c'est le Mans, c'est l'endurance et c'est les rallyes, bien évidemment. Alors, je sais qu'on peut changer, mais c'est pas une image liée à la Formule 1, on est tous d'accord. Jamais, traditionnellement.
Bien sûr.
C'était un choix marketing, point final. On aurait pu l'appeler n'importe comment, cette équipe. Hein. Bon, enfin, peu importe.
Ouais.
Ça va, Louis, tu l'attaques bien ta semaine ?
Bah ouais, écoute, il reste encore 4 jours.
D'ailleurs, pour dire que Luca de Meo, il s'en va du groupe Renault démissionnaire pour aller dans le groupe Kering et gérer d'autres affaires. Voilà, c'est plus...
La famille Pinot.
Dans le grand luxe.
Dans le grand luxe.
Il va devenir PDG du Stade Rennais.
Exactement, on va peut-être la retrouver dans le sport, hein, ouais. C'est possible. Bon, les gars, merci beaucoup.
C'est quid de Flavio, hein, quand même.
Pour Flavio, on va voir, hein, mais là, Flavio, il va rebondir.
Je m'inquiète pas pour ça.
Je suis pas inquiet pour lui.
Non, les Crazy Pizza à Monaco, ça a très bien marché. Ouais.
et quid de Colapinto, allez, je rebondis.
Quid de Pierre Gasly qui doit certainement chercher un petit peu.
Ouais, c'est vrai.
On m'a dit qu'il venait d'appeler Aston lui aussi, tiens, d'ailleurs.
Ouais, et il a dit quand même qu'il devait s'asseoir. Alors, il a été très corporate hier, il a appris la nouvelle en descendant de la voiture. Il a dit qu'il devait s'asseoir quand même avec la direction pour discuter et savoir ce que ça voulait dire pour
logique,
l'équipe.
Ouais.
Là, zone d'ombre sur Alpine, on va en reparler bien évidemment, ça va être un des gros enjeux de cette fin de saison. Les gars, merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle les petites notes sur les plateformes de téléchargement, c'est super important. Les commentaires sur le compte RMC Formule 1 pour réagir avec nous. Et on se retrouve dans 15 jours, week-end du 27 juin, pour le Grand Prix d'Autriche. Ouais, l'Autriche. Allez, bye bye.
Ciao.
Salut.
Le paddock RMC.